chers amis, chers camarades, alors j'ai ce privilège de ne pas porter le masque. Je vais en profiter pendant la trentaine de minutes de cette allocution. Alors d'abord, je tiens à vous dire que jusqu'au dernier moment, nous n'aurons pas été sûrs de pouvoir organiser cette fête. Et je vous remercie au nom de tous les camarades de la région d'avoir répondu présent malgré cette incertitude et puis toutes les contraintes qui nous sont imposées. Je peux vous dire en tout cas que nous sommes très heureux de pouvoir l'assurer et de pouvoir ainsi nous retrouver. Parce que les occasions de discuter fraternellement sont de plus en plus rares. Et puis parce que c'est dans ces moments d'inquiétude et de bouleversement aussi pour la vie de beaucoup d'entre nous que nous avons besoin de comprendre ce qui arrive et d'avoir une politique et des perspectives. Quand je dis « nous », je parle du monde du travail, des salariés, qu'ils soient en activité ou au chômage, des retraités, des jeunes, des classes populaires. Oui, nous avons besoin d'avoir notre politique, notre plan d'action, notre programme, nos propres perspectives, parce que la politique du gouvernement est à l'opposé de nos intérêts et nous avons aucune confiance à avoir en lui. Il ne nous protège pas contre le virus et encore moins contre la crise économique. Sur la crise sanitaire, le gouvernement craint une seconde vague parce qu'il a peur d'avoir à reconfiner le pays. Mais il n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'éviter. À part imposer le port du masque, restreindre à la vie sociale tout en nous demandant d'aller bosser, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour que nous ne soyons pas à nouveau confrontés à une saturation des hôpitaux et des services de réanimation ? Rien. Les hôpitaux n'ont eu droit qu'à du saupoudrage. Si tant est que les 4000 lits promis soient effectivement réouverts, ils ne compenseront même pas les 4800 lits supprimés pendant les deux premières années du mandat de Macron. Dans les EHPAD, on est dans la même situation qu'en mars dernier. Et c'est toujours le même manque de bras et sont toujours ces mêmes mesures inhumaines d'isolement des résidents. On nous dit que les laboratoires sont au cœur de cette lutte sanitaire. Et qu'est-ce qu'on voit ? La pagaille, l'improvisation. Et tout le reste est à l'avenant. Les transports collectifs ont-ils été renforcés pour réduire la promiscuité ? Non. L'éducation nationale, est-ce qu'elle s'est donné les moyens de travailler en groupe restreint ? Non plus. Alors, sur le plan sanitaire, oui, il y a de quoi être inquiet, mais il y a aussi de quoi être très en colère. Quant à la crise économique, non seulement le gouvernement ne peut pas l'empêcher, mais il va aider le grand patronat à la faire payer aux travailleurs. Regardez ce qui se passe avec l'entreprise Bridgestone. Vous avez sans doute entendu que cette multinationale veut fermer son usine de Béthune en jetant sur le carreau près d'un millier d'ouvriers. Alors l'ensemble du monde politicien a réagi. Ils ont tous fait semblant de s'offusquer. C'est une décision révoltante, aux conséquences révoltantes, a dit le maire, le ministre de l'économie. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, a parlé d'assassinat dans le genre « retenez-moi, sinon je vais tout casser ». Tout ce cinéma est écœurant. Chacun d'entre nous ici peut énumérer une ribambelle d'entreprises qui ont licencié, fermés, délocalisés ces dernières années. Et ces mêmes politiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les empêcher ? Rien, ils les ont laissés faire. Au mieux, ils ont dénoncé les patrons. Enfin, surtout quand c'était des patrons étrangers. Mais ils les ont laissés faire. Et les travailleurs, eh bien, ils sont retrouvés à Pôle emploi. En parlant d'assassinat, Xavier Bertrand y est allé fort. Mais qu'est-ce qu'il propose ? De discuter avec Bridgestone et de le convaincre de rester en France en alignant encore des millions. Il crie à l'assassinat et il promet des millions à l'assassin. Et c'est ça le fond de leur politique. C'est d'arroser de millions le grand patronat, sans rien lui interdire, sans le contraindre à rien. Et même lorsque les pouvoirs publics obtiennent des engagements en termes d'emploi ou d'investissement, et c'est là-dessus que les dirigeants du Parti communiste ou de la France insoumise militent beaucoup, eh bien les actionnaires empochent les aides et ils finissent toujours par faire ce qu'ils veulent. Jouer aux conseillers du grand patronat sur la façon d'investir son argent, de relocaliser les usines ou de réindustrialiser le pays, comme le font les politiciens de droite ou de gauche, et même les dirigeants syndicaux, est une tromperie. Tant que le grand patronat reste le maître, eh bien il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et les discours sur la politique industrielle ne sont que des bavardages. Alors, les grandes déclarations que l'on entend en ce moment sur Bridgestone et que l'on avait déjà entendues pour Whirlpool à Amiens, pour Continental à Clairoix, ce sont des mots en l'air, ce sont des gesticulations de politiciens pour cacher qu'ils ne savent faire qu'une chose, se coucher devant le grand patronat et lui servir la soupe. Le personnel politicien peut se faire élire et prétendre gouverner, mais ce sont les actionnaires, la grande bourgeoisie qui impose leur dictature sur l'économie, et le président de la République et les ministres ne sont que des paillassons sur lesquels les multinationales s'essuient les pieds. Alors les travailleurs n'ont rien, absolument rien à attendre d'eux. Alors, que faire contre cette avalanche de licenciements? Est-ce que nous sommes impuissants face aux fermetures d'entreprises décrétées par les grands actionnaires? Oui, on l'est. Si l'on pense que les actionnaires, les propriétaires sont nécessaires et indispensables à l'économie. Mais si l'on pense que les entreprises n'ont pas besoin d'eux pour tourner, eh bien on peut se battre et refuser leur dictature sur la société. Eh bien, nous n'avons pas besoin d'eux. Les capitalistes sont censés être des investisseurs, des chefs d'entreprise qui prennent des risques en apportant leur capital. Mais même au début du capitalisme, cela n'a jamais été tout à fait vrai, parce que l'État a toujours été derrière eux pour les aider. Mais surtout, ils n'investissent que si cela leur permet de produire et de vendre plus pour plus de profits. Et avec la crise qui dure depuis des années, ce n'est plus le cas depuis longtemps. Maintenant, pour que ces messieurs, les capitalistes, veuillent bien investir et produire ce qui est nécessaire, il faut que l'État leur apporte tout sur un plateau. Les terrains, les locaux, il faut que l'État prenne en charge la formation des salariés, quand ce n'est pas le salaire des salariés. Il faut que l'État leur garantisse leur taux de profit. Et c'est à ça que sert le plan de relance de 100 milliards. Le gouvernement l'avoue lui-même. Il doit faire ce que les capitalistes ne veulent pas faire. Il doit tirer, vous savez, les fameux premiers de cordée. Eh bien, il faut les tirer. Ils doivent les booster, leur donner envie. Et il le fait en mettant 100 milliards à leur disposition. En accordant des enveloppes de plusieurs milliards aux capitalistes au nom de l'écologie, de l'innovation ou de la relocalisation, l'État donne à la bourgeoisie une partie du capital qu'elle est censée apporter. Eh bien voilà, on en est au point où les capitalistes ne servent même plus à apporter le capital de l'entreprise. Ils ne font que pomper les profits, ils ne font que parasiter le travail et la sueur des autres. Et ce plan de relance en est l'aveu. C'est l'aveu que la bourgeoisie n'est plus qu'une classe parasitaire. Quant à remettre la bourgeoisie sur les rails des investissements productifs et utiles à toute la société, le gouvernement n'y arrivera pas parce qu'on ne fait pas boire un âne qui ne veut pas boire. Le capitalisme est un système moribond. La société n'a jamais eu autant de richesses et autant de moyens de les produire. Et l'économie est marquée depuis déjà des décennies par l'absence de grands plans d'investissement dans la production. La bourgeoisie possède des capitaux par-dessus la tête. La fortune des familles bourgeoises les plus riches du monde dépasse les 100 milliards. Mais la société est incapable de répondre à nombre de besoins élémentaires, que ce soit au niveau des logements, des transports ou de la santé. Pendant la crise sanitaire, même dans les pays riches, on a manqué de masques, de respirateurs, de principes actifs pour des médicaments de base comme le paracétamol. En revanche, entre la mi-mars et fin mai, c'est-à-dire au plus fort de la crise, les capitaux ont afflué vers les géants Apple, Facebook, Google et ont enrichi leurs propriétaires et principaux actionnaires de 10 milliards de dollars en moyenne. Eh bien, ce simple fait est significatif de ce qu'est devenu le capitalisme mondial. Un capitalisme décadent, tourné vers la finance et la spéculation et incapable d'aider la société à faire face aux défis qui se posent à elle. La bourgeoisie ne trouve plus intérêt à placer ses capitaux dans la production de biens utiles, car les marchés ne se développent plus ou sont arrivés à saturation, et parce que la concurrence y est exacerbée. Elle investit ses capitaux là où ils sont susceptibles de rapporter beaucoup et rapidement, c'est-à-dire dans le jeu boursier. Et elle parie principalement sur les valeurs du numérique qui s'arrachent et dont le cours ne cesse de monter. À la bourse de New York, on a vu le cours d'Apple, doubler en 6 mois. La firme Apple vaut maintenant 2000 milliards de dollars, le PIB de l'Italie. L'indice Dow Jones, qui suit la valeur des 30 plus grandes compagnies américaines, a récemment sorti de son classement Exxon, la compagnie pétrolière. Il l'a remplacé par une entreprise de fabrication de logiciels et d'applications. Oui, aux yeux des capitalistes, une entreprise qui héberge des applications est plus importante qu'Exxon, la plus grande compagnie pétrolière du monde. Dernier exemple, Tesla, qui fabrique des voitures électriques, a vu le cours de son action augmenter de 950%. Sur les marchés financiers, l'entreprise vaut maintenant 2 fois plus que Toyota, alors que Toyota vend 13 millions d'automobiles, quand Tesla en vend 400 000. Même quand les investissements financiers sont vaguement en rapport avec la production de biens utiles, ce ne sont pas les besoins de production qui les motivent, mais la spéculation sur la valeur des actions. Si l'action Tesla se vend plus cher aujourd'hui qu'hier, eh bien il faut en acheter, en espérant que le prix continue de monter, indépendamment des richesses réelles créées par Tesla. Et tout cela montera jusqu'à ce que la bulle spéculative explose. Le système capitaliste est condamné à aller de crise en crise et la classe qui le dirige est irresponsable. Que les dirigeants politiques qui profitent en grande partie de ce système en soient les serviteurs fidèles, c'est dans l'ordre des choses. Mais il n'y a aucune raison que les travailleurs se résignent et se soumettent à une classe sociale et un système aussi parasitaire que nuisible. Les statuts historiques de la CGT, votés au Congrès d'Amiens en 1906, précisaient que l'émancipation intégrale des travailleurs ne peut se réaliser que par l'expropriation des capitalistes. Jusqu'à 1995, ces statuts affirmaient que la CGT groupe tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Eh bien, la crise actuelle montre à quel point cet objectif reste d'actualité. C'est une perspective que les dirigeants de confédérations syndicales et les dirigeants qui se disent de gauche ont abandonné depuis longtemps, mais c'est la seule perspective valable. Alors, pour être capables de défendre leurs intérêts d'exploiter, pour se battre efficacement contre les attaques patronales, les travailleurs doivent avoir pour perspective de renverser le système capitaliste. Si la bourgeoisie est incapable d'assurer un emploi à tous avec des salaires dignes dans le cadre de son système, elle doit être expropriée et laisser la place aux salariés. Et les travailleurs sont parfaitement capables de diriger les entreprises 1000 fois mieux que cette minorité parasite. Là encore, ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire ne peut que nous renforcer dans cette conviction. Car qui a fait face au pic de l'épidémie? Qui a fait preuve de courage et de responsabilité pendant cette crise ? D'abord, le personnel soignant, qui a fait face, mais aussi tous les salariés qui ont assumé leur rôle indispensable pour la société, les caissières, les magasiniers, les livreurs, les éboueurs, les électriciens, et j'en oublie. Les travailleurs, les exploités, ceux qui ne sont rien d'après Macron, eh bien, ce sont eux qui ont démontré qu'ils savaient se dévouer pour la collectivité, qu'ils savaient prendre des initiatives en fabriquant des masques, en organisant la solidarité, en distribuant, par exemple, des vivres alimentaires à ceux qui ne pouvaient plus nourrir leur famille. Une fois de plus, les travailleurs ont démontré qu'ils étaient à la base de tout et qu'ils étaient indispensables. Parce que oui, ils font tourner la société tous les jours. Ce sont les ouvriers qui produisent dans les usines, ce sont les chauffeurs qui font rouler les bus, les camions, ce sont les travailleurs agricoles qui ramassent les fruits et les légumes. Toutes les richesses créées dans cette société passent entre nos mains de salariés. Sans nous les travailleurs, rien ne serait fait. Et nous faisons le plus difficile. Eh bien, collectivement, nous pouvons aussi diriger. Et nous dirigerions mille fois mieux que les capitalistes, car nous ne serions pas aveuglés par le profit et par l'accumulation du capital. Nous serions guidés par les intérêts communs au plus grand nombre, c'est-à-dire satisfaire les besoins vitaux de tous, à commencer par les plus pauvres, avoir un emploi, un salaire et une retraite digne. La crise sanitaire a accéléré et aggravé la crise de l'économie capitaliste. Pour les travailleurs, cette nouvelle phase de la crise signifie un durcissement du capitalisme, une intensification de la lutte de classe, une nouvelle phase de la guerre sociale. Il a suffi de quelques mois au grand patronat pour détruire plus de 700 000 emplois, c'est-à-dire pour enlever leur gagne-pain à plus de 700 000 personnes. Oh, il a pu aller très vite. Il n'a même pas eu besoin de plan de licenciement. Il lui suffisait de mettre fin aux CDD et aux missions des intérimaires ou aux missions de ceux que l'on appelle désormais les auto-entrepreneurs. Il lui suffisait d'arrêter les commandes passées aux prestataires et aux sous-traitants. À cela s'ajoutent les plans de licenciement en cours à Airbus, Air France, Nokia, Renault, Smart, Lal, Courtepaille, André, Poiron, General Electric, Bridgestone, enfin bon. Et toutes les PME moins connues nationalement qui licencient ou mettent la clé sous la porte. C'est dévastateur pour l'ensemble du monde du travail. Et les victimes, elles ne se comptent pas seulement dans les rangs des ouvriers. Les victimes, on les compte aussi dans les catégories de travailleurs qui passaient pour, il y a peu, pour des privilégiés. Les cadres de l'industrie aéronautique, par exemple, ou les pilotes de ligne. Hier, ils se croyaient peut-être au-dessus des autres salariés. Aujourd'hui, ils sont sur un siège éjectable et ils réalisent qu'aux yeux du grand patronat, ils ne sont rien. Et puis, il y a aussi la petite bourgeoisie et même la moyenne bourgeoisie, particulièrement nombreuse en France. Petits entrepreneurs en tout genre, commerçants, artisans, restaurateurs, boutiquiers. Des centaines de milliers de femmes et d'hommes croyaient que leur propriété les plaçait au-dessus des salariés. Et ils espéraient que leurs affaires les protégeraient des aléas de l'économie. Ils voient aujourd'hui qu'il n'en est rien. Oui, ce qui se joue aujourd'hui pour des centaines de milliers de femmes et d'hommes, c'est leur propre survie. C'est l'avenir de leurs enfants. On peut reprendre les mots d'Édouard Philippe. Oui, on est face à une tempête économique et sociale. Et quel que soit notre sort individuel, nous en serons tous victimes. D'une façon ou d'une autre. Prenez les incivilités, la délinquance, les violences gratuites, les trafics organisés qui pourrissent déjà la vie des quartiers populaires. Comment imaginer qu'ils reculent demain, s'il y a encore plus de chômage, plus de misère, et si l'avenir se bouche pour des générations entières de jeunes? Si un guetteur gagne plus qu'un travailleur, si ça recrute sur le marché de la drogue, alors qu'il n'y a pas de boulot dans le reste de la société, comment croire qu'on pourra stopper tout ce pourrissement? Toute la société se déglingue parce que des milliers de femmes et d'hommes sont livrés à eux-mêmes, marginalisés, abandonnés par la société. Et les coups de menton d'un Darmanin, où les leçons de morale républicaine de Macron sont d'autant plus révoltantes que les premiers responsables de ces reculs, ce sont eux. Eux qui ne se préoccupent que des affaires des plus riches, eux qui dirigent la société dans le mur. S'ils ne nous dirigent pas droit vers une nouvelle guerre, parce que c'est aussi une menace qui plane sur nos têtes. Le capitalisme en crise, c'est aussi la multiplication des guerres, où les bourgeoisies entraîneront toujours davantage de peuples à s'affronter pour ses profits. Les rivalités entre les grandes puissances par alliés interposés ont déjà transformé certaines régions du monde, en Afrique ou au Moyen-Orient, en véritables champs de ruines. Et regardez le bras de fer qui se joue actuellement en Méditerranée, dans une zone où la Grèce et la Turquie se disputent de vastes gisements gaziers. Le gouvernement français a décidé de s'impliquer directement dans ce conflit régional. Et il a fait d'une pierre deux coups. Un, il a vendu à la Grèce 18 avions de combat, des Rafales, et 4 frégates, pour le compte donc de Dassault. Oui, le peuple grec, qui a été essoré par les suites de la crise financière de 2008, qui a vu ses retraites s'effondrer, les services publics être liquidés, eh bien voilà, il va se retrouver dans un pays qui va dépenser plusieurs milliards en Rafales. Et puis, deuxième objectif pour le gouvernement français, eh bien, c'est de protéger les intérêts de Total. En aidant la Grèce contre la Turquie pour le contrôle des hydrocarbures de la Méditerranée orientale, oui, le gouvernement travaille d'abord pour Total. Et ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. En attisant les rivalités entre grandes puissances, la rapacité capitaliste nous condamne à un monde d'affrontements, de tensions militaires et de guerres. Alors, il ne s'agit pas seulement des intérêts de la classe ouvrière. Il s'agit de l'avenir de la société dans son ensemble. Mais c'est bien la classe ouvrière qui détient la clé. Parce que la classe ouvrière est la seule classe qui peut offrir un autre avenir à l'humanité. Elle seule y a vraiment intérêt. Elle seule a la force et les moyens de changer de fond en comble la société et de la réorganiser sur des bases collectives, sans rapport de domination, sans exploitation, sans ces lois du marché. La bourgeoisie ne nous laisse pas le choix. Le monde du travail va devoir se défendre. C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui est attaquée. C'est ensemble qu'elle peut se défendre. Croire que les travailleurs de certaines entreprises et de certaines catégories pourront sauver leur peau sans les autres, ou pire, à leurs dépens, est une erreur. Cela n'aboutit qu'à montrer nos points faibles, nos propres divisions, nos hésitations et au bout du compte, notre manque de résolution. Les travailleurs ne pourront se défendre qu'en étant unis. Unis, non pas pour bien voter. Unis, non pas pour reprendre à leur compte les discours patronaux sur la compétitivité ou les mots creux sur le souverainisme ou la menace chinoise ou la menace du plombier polonais. Non, il faut que les travailleurs soient unis, mais autour de leurs propres intérêts de classe, autour d'un programme de combat qui affirme les besoins vitaux des travailleurs. Les travailleurs n'ont ni capitaux ni cours boursiers à préserver. Ils n'ont que leur emploi et leur salaire. C'est ce qu'ils ont d'essentiel à sauver dans cette crise. Face à l'effondrement de l'activité, il faut répartir le travail entre tous les salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaires ou salariés de la sous-traitance. Si l'activité est réduite, les cadences doivent baisser. Le temps de travail doit être réduit et les salaires maintenus intégralement en prenant sur les profits présents et sur les profits passés. Face à la stratégie patronale d'opposer les travailleurs ou les sites, en surchargeant d'activité les uns et en mettant les autres au chômage, il faut imposer de travailler moins pour travailler. Pas un ouvrier, pas un employé, pas un intérimaire ou un contractuel ne doit être chassé de son poste de travail ni privé de son salaire. Et puis pour résorber le chômage, eh bien il faut créer massivement des emplois. L'épidémie de Covid-19 a mis en évidence le manque de personnel dans les hôpitaux. Pour qu'ils ne soient pas débordés, il a fallu des milliers de volontaires. Les besoins sont tout aussi flagrants pour soigner les personnes dépendantes, pour l'éducation et la petite enfance, pour les transports. Ces dizaines, ces centaines de milliers d'emplois ne sont pas créés. Et ce n'est pas par manque d'argent. L'État a bien trouvé 100 milliards pour son plan de relance. Et 100 milliards, c'est l'équivalent de 2,7 millions d'emplois payés à 1 800 euros par mois pendant un an. Alors non, ce n'est pas l'argent qui manque. Si ces emplois ne sont pas créés, c'est parce que la bourgeoisie s'y oppose. Comme elle s'oppose à toutes les dépenses publiques qui ne lui sont d'aucun profit. Mais les hôpitaux ou les EHPAD n'ont pas à être rentables financièrement. Ils ont à assurer tous les soins dont chacun, riche ou pauvre, a besoin. Alors, il faut se battre pour créer ces emplois. Ceux-ci ne généreront pas de profits privés et ce n'est sûrement pas un problème parce que leur utilité publique suffit à les justifier. À la logique de rentabilité et de performance de la bourgeoisie, les travailleurs ont à opposer leurs nécessités vitales. Des emplois, des augmentations de salaire et un contrôle ouvrier sur les agissements du grand patronat qui nous mène de crise en crise. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement du sort de la classe ouvrière, mais du sort de tous ceux qui ne peuvent vivre que de leur travail face à une minorité de parasites. Il s'agit de l'avenir de toute la société. Si on ne veut pas que le monde du travail soit sacrifié, il faut que la grande bourgeoisie paye. Les profits et les richesses accumulées ces dernières années ne se sont pas envolés pendant le confinement. L'alternative est entre leurs profits ou nos emplois, entre leurs dividendes ou nos salaires, entre leurs richesses ou nos vies. Alors oui, mener ce combat signifie remettre en cause le droit divin des patrons de faire ce qu'ils veulent et de disposer de la vie de milliers de travailleurs. C'est remettre en cause leur droit divin de transformer de nouvelles villes en déserts industriels, comme veut le faire Bridgestone à Béthune. Mener ce combat signifie remettre en cause la propriété privée des capitalistes, leur enlever le capital des mains. Proudhon, un des premiers socialistes, avait dénoncé l'accaparement des moyens de production par la bourgeoisie qui se développait alors. Il l'avait fait par une formule qui est restée célèbre, la propriété, c'est le vol. Eh bien, oui, le capital, c'est le vol. Même ce capital est le fruit de notre travail à tous. Une des absurdités du système capitaliste est que le profit des entreprises créées par les travailleurs est accumulé par la grande bourgeoisie, qui en fait du capital et un moyen d'exploiter à nouveau les travailleurs, un moyen pour accroître sa mainmise sur l'économie et donc d'accroître sa puissance sociale. Oui, dans cette société, les travailleurs fabriquent tout, je l'ai dit, ils produisent tout, jusqu'au grand capital qui les exploite. Ils fabriquent jusqu'à leur propre chaîne. La grande différence entre les réformistes et les révolutionnaires est là. C'est que les révolutionnaires contestent les bases mêmes de la société capitaliste, c'est-à-dire cette propriété privée des moyens de production, et leur but ultime est de les supprimer, parce qu'on ne supprimera pas l'exploitation, les classes sociales et les inégalités sans supprimer cette propriété privée du capital. Alors, à bas la propriété capitaliste, vive l'expropriation de la bourgeoisie et la mise en commun des moyens de production. Nous le savons tous, l'état d'esprit des travailleurs n'est pas à la révolution sociale. Et l'état d'esprit est même loin du combat nécessaire pour inverser le rapport de force avec la bourgeoisie. Mais c'est aussi dans des moments de crise, comme celui que nous vivons aujourd'hui, dans ces moments de bouleversement, que les consciences évoluent. Et un état d'esprit, ça peut changer vite. Personne n'a vu venir, par exemple, la révolte des Gilets jaunes. Et personne ne peut prédire d'où partiront les coups de colère et lesquels se changeront en mouvement social capable d'influer sur la situation politique. C'est l'évolution de la crise elle-même et la gravité des coups qu'elle subit qui amèneront la classe ouvrière à se battre. Le rôle des militants n'est certainement pas de s'adapter au climat de résignation ambiant. Il est encore moins de semer des illusions sur la capacité de quelques politiciens à mieux gérer le capitalisme décadent. Toute solution qui se place dans le cadre du capitalisme est à rejeter en bloc. Il faut viser la révolution sociale, le renversement du capitalisme et l'expropriation de la bourgeoisie. Et ce ne sont pas les mesures radicales que craignent les nôtres. Ils sentent que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et certains espèrent, attendent, veulent une rupture radicale. Souvent, ils la cherchent dans des personnalités qui apparaissent comme les plus anti-système. Aux yeux de certains, ce n'est même plus Marine Le Pen. Parce qu'à force de se dédiaboliser, en fait, elle fait de plus en plus partie du paysage. Alors, certains parlent de Zemmour, Bigard, Onfray, Raoult même. Oui, il y a en effet un large choix pour rejeter tous ceux qui sont au pouvoir et se jeter dans l'inconnu. Les classes populaires ne font plus confiance dans le pouvoir. Et cela ouvre la voie aux idées complotistes de toutes sortes et ce qui témoigne de la désorientation politique la plus totale. Eh bien, il faut nous accrocher à notre boussole de classe et défendre nos perspectives révolutionnaires. Il faut que cette perspective soit diffusée et répandue autour de nous dans le monde du travail. Pour cela, il nous faut avancer dans la construction d'un parti. Alors, camarades, j'en appelle à chacun d'entre vous. Non pas en disant « aidez-nous », mais « aidons-nous collectivement pour construire ce parti ». Chacun peut y contribuer. On peut y participer de différentes manières. On peut s'y engager en y consacrant l'essentiel de sa vie. Et il est indispensable que certains d'entre nous, et que les jeunes en particulier, fassent ce choix-là. Mais on peut y participer tous. Chacun à son niveau, ne serait-ce qu'en discutant et en propageant ses idées dans sa famille, avec son voisin de travail ou de palier. Il y a besoin de tous pour prendre le contre-pied des mensonges patronaux et des diversions politiciennes, ne serait-ce qu'en montrant que l'on n'est pas d'accord. Il y a besoin de tous pour affirmer que le capitalisme n'est pas éternel, qu'on peut le renverser et fonder une société sur une base collective, égalitaire, et démocratique, à condition bien sûr d'en donner les perspectives à la classe ouvrière. C'est utopique, nous dira-t-on ? Est-ce que nous sommes sûrs d'y parvenir ? Est-ce qu'on a la garantie que les exploités feront la révolution ? Non, nous n'en avons aucune. Nous sommes comme ces médecins, vous savez, ces chercheurs, qui travaillent aujourd'hui pour trouver un vaccin contre le Covid. Ils n'ont pas la garantie d'y parvenir. Certains virus, d'ailleurs, pour certains virus, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc, sans aucune garantie, eh bien, n'empêche qu'ils cherchent. Ils savent dans quelle direction chercher et ils y travaillent. Eh bien, nous aussi, nous savons dans quelle direction chercher. C'est celui de la révolution sociale. Il faut faire revivre le courant révolutionnaire. Nous ne partons pas de rien. Nous pouvons mettre nos pas dans ceux des générations de militants qui nous ont précédés et qui ont milité dans des périodes tout aussi difficiles. Ils ont connu des hauts et des bas, des victoires et des défaites, mais ils nous ont transmis le plus précieux, l'idée que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Alors je vous souhaite à tous bon courage pour mener ce combat politique.